Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Lemel.
Bonsoir.
J'en profite pour annoncer dès à présent l'émission qui vient tout de suite après. C'est que de la musique juive, que de la musique de Shabbat. C'est Oneg Shabbat qui vous est présenté à Jérusalem par Raphaël Usan. Donc c'est tout de suite après notre émission de réflexion. Et donc on commence, comme chaque semaine avec vous, Rav Eli Lemel, à survoler notre paracha. On est arrivé aujourd'hui à Korar. Korar, c'est la paracha de la dispute, de la querelle, de la controverse. On a plein de synonymes pour ça, malheureusement. Et vous voulez faire un lien, un parallèle entre ce même passage de la Torah et la création du monde. Et la toute première paracha, Bereshit. Pourquoi est-ce que, selon vous, ces deux passages sont liés ?
Tout à fait. Ces deux passages sont évidemment liés. Nos textes en parlent d'ailleurs, dans plusieurs lieux. Rappelons-nous de ce qui se passe au moment de la création de l'univers. Il y a premier jour, second jour, troisième jour, quatrième jour, mais vous allez constater que sur tous les jours de la création, lorsque Dieu dit et que les choses sont, eh bien le texte nous dit « Vayar Elohim Kitov » et Dieu a vu que les choses étaient bonnes, bien, sauf un jour, le second jour. Le second jour, il n'y a pas marqué le mot « Kitov » que c'était bien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le troisième jour, il va y avoir marqué deux fois « Kitov ». Deux fois, il y aura marqué que c'était bien, mais pas le second jour. Pourquoi ? Eh bien, disent nos maîtres, parce que ce jour-là, Vayavdel Hashem Elohim, Dieu a séparé. Dieu a séparé l'univers du haut de l'univers du bas. Il y a les eaux supérieures, les eaux inférieures. Et parce que ce jour-là, cette notion-là de séparation s'est introduite dans l'univers, eh bien, c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, nous sommes ici face à, en effet, l'absence du mot Kitov, c'était bon. En effet, lorsqu'il y a rupture, lorsqu'il y a Marloquette, lorsqu'il y a dissension, eh bien, il y a ici une absence du tov, une absence du bien. Et pourtant, là-bas, il s'agit d'une séparation entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Mais néanmoins, c'est l'idée suivante, c'est que normalement, tout doit tendre vers un principe d'unité. Et dès lors qu'il y a séparation, dès lors qu'il y a rupture, eh bien, il y a en effet tout ce qui peut être généré par cela. Et alors, si on essaye d'analyser un petit peu plus, voyons un petit peu ce qui se passe dans l'histoire de Korach. Vous savez qu'il y a un autre événement très très lourd que le peuple d'Israël va vivre dans le désert, c'est le veau d'or. Le veau d'or, en effet, la Torah nous relate combien malheureusement, après le don de la Torah, eh bien, le peuple d'Israël se retrouve à faire le veau d'or. C'est quand même dramatique, une idole. Alors bien sûr, c'est une discussion avec nos sages pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave. Et pourtant là-bas, quand vous regardez le texte, eh bien, ceux qui ont été sanctionnés, eh bien, ce sont ceux qui ont été ce que j'appellerais les adorateurs du veau d'or. Et puis ça s'arrête là. Évidemment que l'histoire n'est pas banale, mais dans l'histoire de Korach, par contre, c'est plus complexe, puisque nous allons voir que Korach, eh bien, va être sanctionné, mais il va disparaître lui et toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, tout le monde. Et nos maîtres de nous dire, de là, tu vois la gravité de la querelle, c'est qu'elle emporte tout sur son passage. Alors au fond, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi cette querelle? On va essayer de réfléchir et réaliser que ce sont des choses qui peuvent nous concerner aussi. Tout d'abord, quelle est l'accusation? Quel est le point de départ de cette querelle entre Korach et Moshe? Eh bien, Korach va accuser Moïse de népotisme. Il va dire, c'est quoi cette histoire? Tu es le Kohen Gadol, tu es, pardonne-moi, le chef du peuple d'Israël, ton frère c'est le Kohen Gadol, le reste de ta famille proche, ils sont au poste clé, c'est du népotisme. Au fond, on pourrait même poser la question à Korach à ce moment-là, et donc, quel est le problème? Au fond, s'ils sont là, c'est parce qu'ils remplissent leur fonction, ils la remplissent extrêmement bien. Donc on voit que, qu'est-ce que Korach cherche? Il ne cherche pas à améliorer la condition du peuple d'Israël, pensant que ses dirigeants ne font pas leur travail, non. Korach dit, comme on dirait un peu légèrement aujourd'hui, je veux être le calife à la place du calife, et il cherche à faire disparaître Moshe. Et alors, intéressant parce qu'il y a une Mishnah, il y a un texte dans les Pirkei Avot qui nous parle justement de la marloquette, de la dissension. Et ce texte nous dit, il y a deux types de dissension, il y a deux types de querelles. Celle que l'on appelle le Shem Shamaim, celle qui est là pour la bonne cause, et celle qui n'est pas là pour la bonne cause. Et on nous dit, c'est quoi la dispute, la dissension, le Shem Shamaim pour la bonne cause? On nous dit, c'est la discussion entre ces deux grandes écoles de pensée, qui sont l'école de Hillel et de Shamaï. Et on dit sur cette dissension-là, cette querelle, eh bien, Sofa Lutkayem, elle se maintiendra. Ce qui est paradoxal, parce que justement, nous, ce qu'on voudrait, c'est que les choses s'apaisent. Non, on nous dit, si c'est dans le bon but, alors ça se maintient. Et on dit, c'est quoi la dispute qui n'est pas dans la bonne direction et qui, en effet, ne se maintiendra pas? Eh bien, c'est la marloquette de Korach et de son groupe. Alors, il y a deux choses qui sont curieuses ici. La première, c'est en effet cette terminologie dans laquelle on nous dit que les choses vont se maintenir, alors qu'a priori, justement, on penserait le contraire. Et puis aussi, dans la première proposition du texte, on dit voilà. Alors, la dissension qui est dans le bon but, c'est la dissension entre deux écoles de pensée différentes, l'école de Hillel et de Shammai. Donc, on a deux protagonistes, donc on peut parfaitement comprendre qu'il y a ici opposition. Mais dans le second cas, on nous dit, c'est la dispute de Korach et de son groupe, et puis ça s'arrête là. Et on ne nous parle pas du second protagoniste, qui est Moïse. Tout d'abord parce que Moïse, Moshe, ne s'oppose pas. Moshe est là, il dit, bah, écoutez, on va demander à Dieu, on va s'en remettre à lui. Première réponse. Mais seconde réponse, j'avais entendu d'un de mes enseignants, il y a très 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 longtemps, quand j'étais à l'école, et vous savez, quand les enseignements sont beaux, eh bien, on s'en rappelle fort longtemps. Il nous avait expliqué la chose suivante. Il nous avait dit, au fond, ce texte est en train de nous dire, sache que la dissension est déjà présente entre Korach et son groupe. Pourquoi ? Parce que leur unité s'est construite autour du désir de faire disparaître Moïse. Mais c'est une unité de façade. Ces 250 personnages qui sont là à ses côtés et qui, a priori, forment un bloc, un groupe fort puissant, et toute allusion à des situations existantes ou ayant existé seront mises de côté, n'est-ce pas? Eh bien, au fond, cette union n'est là que pour faire disparaître quelqu'un. Mais dès le moment où cette personne sera mise de côté, c'est à l'intérieur même du groupe que vous allez voir les dissensions qui vont se mettre en place avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que justement, la dispute qui est dans le bon but, celle-là, elle va se maintenir? Eh bien, parce qu'au fond, c'est quoi le bon but? C'est pour faire aboutir la vérité. Hillel et Shammai n'avaient qu'un désir, c'est de savoir quelle doit être la loi, qu'est-ce que l'on doit dire, de manière ultime, comment on doit fonctionner dans le peuple d'Israël. Et chacun a sa vision, qu'il essaye d'étayer, évidemment, avec toutes sortes d'arguments, mais la finalité, ce n'était pas eux-mêmes, c'était le propos qu'ils véhiculaient. C'est la raison pour laquelle, eh bien, ces deux écoles vont rester, même si l'une, en effet, va être celle qui sera considérée comme étant la décisionnaire, mais l'autre continuera à avoir sa place, elle ne disparaît pas parce que, au fond, à aucun moment, il n'y avait ici de désir personnel. D'ailleurs, on le voit, vous savez, beaucoup plus proche de nous dans l'histoire, lorsqu'il va y avoir un antagonisme fort entre l'univers de la Chassidoute, qu'a créé le Baal Shem Tov, et ceux que l'on appelait à l'époque les opposants, au fond, en dehors bien sûr des seconds couteaux, qui parfois avaient peut-être des intentions fort peu noble, mais les dirigeants qui se sont opposés, leur problématique, c'était la survie du peuple d'Israël, et ils avaient des visions différentes sur la manière dont il fallait continuer à transmettre les choses, la rigueur de l'étude, la joie de la chassidoute, même si je suis un peu réducteur en disant de cette manière, et au fond on voit que les deux systèmes vont perdurer, vont continuer à exister. Pourquoi ? Parce que leur finalité, ce n'était pas eux, c'était avant tout le projet divin. Et donc, cette marloquette, eh bien, elle est là, et d'où est-ce qu'elle provient? Alors, on va prendre le mot « marloquet rolek » et on va analyser les lettres et on va constater que avec les lettres de ce mot « le chalek », eh bien, vous faites aussi un autre mot qui est le mot « lokear » qui veut dire « prendre ». En effet, la marloquet, c'est cette dispute, cette dissension, elle provient du fait que l'individu veut prendre, veut ramener à lui les choses, il se voit être sa propre finalité. Et donc, évidemment, dès le moment où il y a quelqu'un en face de lui qui peut lui poser problème, eh bien, il faut absolument qu'il s'oppose, qu'il le mette de côté. Pourquoi ? Parce que l'autre l'empêche d'exister pleinement, totalement, comme lui voudrait. Et c'est ça, au fond, le drame de la marloquet. Alors, nous, aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela ? Je crois que, au fond, il faut savoir qu'en effet, nous sommes toutes et tous des êtres différents qui avons chacun d'entre nous un rôle et une fonction à remplir dans l'univers. Vous savez que samedi soir, à l'issue de Shabbat, on dit « Hamavdil, Dieu a séparé ». Oui, il a séparé le sacré du profane, Israël des nations, la nuit, l'obscurité, le jour, c'est vrai. Mais cette séparation, ce n'est pas une rupture, c'est rappeler que chacun a une place, chacun a une fonction à remplir, que nous sommes là pour une raison bien précise et qu'il y a une raison commune, c'est de révéler le Créateur dans l'univers. Alors, ce savoir être différent de l'autre est fondamental, mais tendre vers cet objectif commun, c'est ce qui est au centre et au cœur même de l'identité juive. Et c'est ce qu'on traduit de manière générale avec ces mots bien connus, l'unité dans la pluralité. La marloquette de Korach, c'est un drame, parce que tout simplement, le peuple d'Israël s'était révolté dans le désert. Mais il s'était révolté, passé à manger, passé à boire, on veut revenir en Égypte. Alors que là, c'est la première fois où il y a une remise en cause du leadership. Une première fois dans laquelle, eh bien, ce que l'on veut, c'est que l'autre ne soit plus là. Et ça, en effet, comme on l'a vu, c'est sans doute une des choses les plus dramatiques qui puisse exister dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle, eh bien, la Torah nous montre ô combien Korach va tomber, va s'écrouler. Korach, et je vais conclure là-dessus, est un homme d'une richesse colossale. C'est quelqu'un qui possède énormément. Et vous savez, quand vous possédez énormément, eh bien, au bout d'un moment, vous pensez avoir tous les droits. Et c'est là son sujet que le verset nous dit, qu'il y a des personnes extrêmement riches et dont la richesse est pour leur mal. Mais il y a encore, si vous m'autorisez, encore un tout petit peu, il y a aussi deux choses. Une chose, pardonnez-moi, à souligner, c'est que celles qui ont tout déterminé ici, ce sont leurs épouses, parce que nos maîtres, en citant un verset, nous disent que, eh bien, il y en a certains qui ont des épouses qui sont là pour leur mal et d'autres pour leur bien. Et l'épouse de Korach l'entretient dans son désir de rupture. Elle le pousse, alors qu'il y a un autre personnage dans la paracha qui s'appelle Onben Pelet, qui était un des acolytes de Korach, mais qui est une épouse extrêmement intelligente et qui lui dit, au fond, à quoi ça sert. De toute façon, même si vous êtes ensemble pour faire disparaître Moïse, mais après tu verras, tu n'auras rien à gagner, au contraire, tu auras tout à perdre. Et il est capable d'être à l'écoute de cette parole sage et sensée, et elle va se débrouiller à travers une stratégie très fine, de faire en telle sorte que, eh bien, son mari ne soit plus dans ce groupe, qu'il puisse s'en extraire, et à partir de cela, survivre à l'image des fils de Korach, qui eux aussi ont compris l'erreur de leur père, se lèvent et s'en vont. À nous d'être vigilants dans cet univers de la marloquette, savoir que c'est quelque chose, comme le disait un de mes maîtres, dont il faut être boréach, dont il faut s'enfuir comme du feu. Et si nous avons conscience de cela, eh bien évidemment, c'est là où nous sommes, dans l'univers du shalom, dans l'univers de la paix, dans l'univers de l'harmonie, dans lequel chacun de nous remplit son rôle pour pouvoir réussir à remplir le projet d'Hachem, révéler sa présence dans l'univers.
On va essayer, Ravelli Lemel, de réfléchir sur cet enseignement que vous venez de nous donner. Je voudrais aussi signaler aux auditeurs de Radio Shalom que vous avez une campagne de solidarité pour vos propres institutions. Je sais que vous êtes tout le temps tourné vers les autres, mais qu'il faut faire vivre, il faut donner les moyens à cette association qui s'appelle LEV de vivre, et que donc votre campagne de levée de fonds auprès des auditeurs, auprès de la communauté, c'est dimanche et lundi. Donc,
exact.
C'est ça, hein, campagne à l'Odon, en exact. Fait, Rav Lemel.
Oui, c'est ça, à l'Odon, LEV 2022, c'est pas très compliqué, si vous allez sur le site de à l'Odon, vous verrez la campagne de LEV, et puis évidemment, toute somme, quelle qu'elle soit, est remarquable parce qu'elle révèle le désir que les gens ont de participer à ce qu'on essaie de mettre en place, enfin ce qu'on met en place au quotidien. Et c'est vrai que, comme le disent nos maîtres, ils mènent Kemach en Torah, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Donc voilà, c'est un petit peu face à cela que nous voyons en train de faire cette campagne. Et pour nous, ce qui est important, c'est que le maximum de gens puissent y participer, chacun à son niveau. Grâce à Dieu, il y a énormément de campagnes. Donc, comme je dis toujours aux gens, l'essentiel, c'est que les gens donnent pour le peuple juif. On travaille tous pour le même patron. Mais s'ils peuvent éventuellement penser un petit peu à nous, ça ne nous dérange pas du tout, évidemment même. Merci en tout cas beaucoup de relayer l'information. C'est très gentil à vous.
Alors, moi déjà, non seulement je relaie l'information, mais j'appelle les auditeurs à aider cette institution formidable que je connais depuis très longtemps. Elle a, pour différentes raisons, la première pour le nombre de gens qu'elle a ramenés, tout simplement au sein de la communauté juive, pour des gens qui se sont mariés ensuite, pour la pérennité de notre communauté. J'appelle les gens parce que je vous connais, vous, Rav Lemel, et je parle, croyez-moi, avec beaucoup de modestie, genre en faisant des compliments, mais c'est parce que je sais que je vous connais. C'est un judaïsme qui est très vrai, très authentique et très ouvert. Et c'est très difficile de faire les deux. En général, nous, on est ici à la radio, on voit que souvent des gens n'arrivent pas à faire les deux. Être rigoureux dans l'étude, rigoureux dans les valeurs, dans ce qu'on appelle les midot, et aussi très ouvert, c'est pas facile à faire. Et ça, c'est vraiment 100% lève. Donc oui, moi, j'appelle les gens à être là, déjà à répondre avec le sourire quand les bénévoles appellent, parce que c'est vraiment des gens qui donnent de leur cœur, qui vont donner leur dimanche, etc., et mettre la main à la poche pour aider cette association qui s'appelle Lev, qui a plein d'implications. Par modestie, vous n'avez pas voulu le faire avec le mail. Moi, comme ça, de mémoire, je peux dire les jeunes, par exemple, la relève. Je peux dire aussi, vous avez monté tout un programme pour enseigner aux familles qu'on ne se tait pas dans les violences conjugales ou même dans des affaires qui peuvent être des questions d'harcèlement même sexuel dans les familles, etc. Et vous faites un travail merveilleux. Donc voilà, je vais plus que dire, je le rappelle. Je pense qu'il faut appeler les gens à vous aider. Ravi de Lemel, je vous remercie, je vous souhaite un grand Shabbat et un dimanche de solidarité qui soit aussi haut que votre Shabbat. Voilà, j'ai que ça à vous souhaiter.
Amen, amen. Merci
et lundi aussi. Et lundi aussi. Merci à vous, Ravi de Lemel. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom ou Mevorach.
Shabbat Shalom ou Mevorach, Rav Mordechai. Alors vous nous dites en gros ce soir, battez-vous, il en restera toujours quelque chose. Alors évidemment que c'est regarder les choses avec du recul, parce que en fait l'idée c'est surtout que les marloquettes, les discussions, les polémiques et tout, il en reste toujours quelque chose. Et ça fait évidemment mal aussi à celui qui l'a déclenché. Il faut absolument éviter ce qu'on appelle en hébreu la marloquette. En franc, on appelle ça la polémique. Et fortiori, la polémique pour rien.
Effectivement, parce que nos sages nous disent « Bnei Korach lo metu ». Les enfants de Korach ne sont pas morts. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils voyaient Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, se présenter devant Korach, ils avaient un doute. Est-ce qu'on se lève par respect pour Moshe et on va faire du mal à notre père ? Ou alors est-ce qu'au contraire, on doit rester assis par fidélité à notre père, ou on se lève par respect pour notre père et on manifeste d'une certaine manière un peu de mépris pour Moshe Rabbeinu. Alors ils n'ont rien fait, ils ont décidé de ne rien faire. Et donc au moment de la marloquette, venez Korach le metou, les enfants de Korach ne sont pas morts, ils n'ont pas été atteints par la punition qui a frappé Korach et ses partisans. Mais les Baal et Moussar, les maîtres de l'éthique, nous enseigne les enfants, les héritiers, c'est qui les enfants ? C'est les héritiers idéologiques, psychiques, mentaux de Korach qui font des histoires et des marloquettes et des polémiques et des histoires qui divisent des communautés, des familles, et ceux-là ne sont pas morts. C'est-à-dire l'esprit de marloquette n'a pas disparu. Nos sages nous disent, quelle est la marloquette qui est l'Echem Shamaïm ? Sofa l'Itkayem, c'est une marloquette qui est l'Echem Shamaïm, qui est faite au nom du ciel, par exemple les marloquettes Hillel et Shamaï, les disputations entre Hillel et Shamaï dans la Gemara. Et Shem Shamaïm, elle reste, la Gemara va en parler, et elles seront fécondes du point de vue de l'Halakha. Mais là aussi, il y a une allusion. Une marloquette, quand elle est déclenchée, c'est toujours les Shem Shamaïm. Lorsqu'on se dispute et qu'on commence à se fracasser, c'est toujours les Shem Shamaïm. C'est toujours, évidemment, chacun va vous dire, mais non, mais moi je le fais parce que c'est mon avis, je sais que la Torah dit comme ça, je sais que la vérité est avec moi. Donc, les gens déclenchent toujours des disputes pour des raisons qui sont bien sûr des raisons d'intérêt supérieur, comme on dirait en français, en hébreu on dit les Shem Shamaïm. Alors il faut savoir que nos sages, lorsqu'ils analysent l'attitude de Korach, eh bien ils pointent directement la kina, la jalousie. C'est-à-dire que Korach, quand c'est ce qui apparaît dans le pshat, dans le sens littéral de la paracha, de manière très très claire, Korach n'a pas obtenu un poste honorable qu'il convoitait, et donc il va être jaloux, il va faire preuve de jalousie. Mais derrière cette kina et derrière cette jalousie, il y a un point ici, qui est un point qui est beaucoup plus subtil et je pense auquel il faut réfléchir. Lorsque Moshe va s'adresser aux partisans de Korach, il va leur dire « Rav Lachem, Bnei Lévi, ça vous suffit, vous, les enfants de Lévi. Vous avez déjà des postes de réfugiés, vous êtes déjà au service du temple. Vous êtes déjà des gens qui appartenaient donc, aux serviteurs les plus proches d'Hachem. Vous n'avez pas besoin d'en demander encore plus. » Or, lorsque Moshe Rabbeinu va prier Hachem pour entrer en Eretz Israël, Hachem lui demande « Pourquoi tu veux entrer ?» Il lui dit « Parce que je veux faire les mitzvot qui dépendent de la présence en Eretz Israël. Et celle-là, je n'ai pas la possibilité de les faire si je ne rentre pas en Eretz Israël. Je suis prêt à renoncer à mon rôle de leader, mais pourvu que tu me laisses rentrer en Eretz Israël pour que je puisse faire ces mitzvot. » Et là, Hachem va lui dire « Ravlach, arrête-toi. » Et nos sages disent que cette parole-là lui a été adressée en réprimande de la parole qu'il a adressée au Bnei Lévi. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un juif dit « Je veux m'élever dans le service de Dieu, je veux être plus proche de Dieu, je veux en faire plus », on ne peut pas lui dire « Reste où tu es, le niveau que tu atteins suffit ». On ne peut pas limiter un juif dans son ambition spirituelle. Or, à un moment donné, dans son argumentation, Moshe Rabbeinu va dire la chose suivante. Il va dire, j'étends le propos, si vous voulez, je développe le propos, mais c'est un peu ça. Une grande partie des gens qui étaient mêlés à la marloquette de Korach étaient des gens qui étaient les Shem Shamaïm, ils étaient très sincères. Ils ne comprenaient pas pourquoi c'était Aaron, le frère, qui était Kohen Gadol. Pourquoi seulement certains pouvaient servir dans la prêtrise. Pourquoi certains autres pouvaient servir dans la vieillesse. Mais en fait, on a tous reçu la Torah. En fait, on est tous à un très très haut niveau de Gdusha. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tous participer à ce service-là. Il y avait là un désir profond et sincère de servir Hachem mieux et plus. D'ailleurs, on voit qu'après la mort des 250 chefs de Sanhedrin qui ont suivi Korach, eh bien on voit que Hachem va donner l'ordre à Moshe Rabbeinu de prendre les pelles avec lesquelles ils avaient fait le service divin et de les faire fondre pour enduire l'autel des sacrifices. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelque chose de l'Echem Shamaim, il y avait quelque chose de sincère dans leur démarche qui fait que, bien que leur démarche était dangereuse et destructrice, eh bien il y avait un point de départ qui était quand même une certaine sincérité. Et en fait, ce que Hachem va dire à Moshe Rabbeinu, c'est la chose suivante. Il va dire, sache que même lorsque quelqu'un fait n'importe quoi ou dit n'importe quoi, mais que finalement il a une ambition spirituelle, il faut faire attention à lui dire, tu as une bonne ambition, ton ambition est justifiée, mais il faut que tu l'aiguilles autrement. Tu ne veux pas lui dire assez, tu ne veux pas lui dire ne t'élève pas plus. Tu dois lui dire, attention, tu as une ambition, mais tu la mets dans la mauvaise direction. Tu la mets dans la direction de la jalousie et donc de la destruction. Et donc il y a là ici un point, qui est un point important, c'est que pourquoi est-ce que finalement, il y a eu des machloquettes dans le peuple juif qui ont fait des dégâts immenses. La machloquette, par exemple, de Rabbi Yotan Nebeshit et du Yavetz, qui a eu lieu il y a quelques siècles. D'accord ? Vous savez que des Mekoubalim, des Kabbalistes ont écrit qu'une des raisons pour lesquelles le peuple juif a été frappé par des décrets d'extermination, c'est à cause de cette machloquette qui a embrasé toute l'Europe. Il y a eu des divisions terribles au sujet de cette machloquette. Et on a bien vu, même dans le judaïsme français, on a bien vu des machloquettes terribles entre des rabbanim qui se sont divisés, qui se sont opposés, qui se sont insultés. On a vu les dégâts que ça a fait dans les communautés, et on a vu les dégâts que ça a pu causer dans les familles. On le voit ici en Israël aujourd'hui, dans les machloquettes, dans la Sinat Rinam, on voit ce que ça fait. Et en fait, il faut bien comprendre qu'au départ de la machloquette, il peut y avoir quelque chose qui est entre guillemets justifié, au sens où quelqu'un veut faire valoir sa conception de la Torah, veut faire valoir sa conception du service public, sa conception du service, de la manière dont on doit enseigner les mitzvot en public, etc. Bref, chacun peut avoir un objectif en quelque sorte valable, entre guillemets. Mais ce que chacun doit faire, c'est sonder les raisons profondes de la raison pour laquelle il s'emballe dans cette machloquette. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans de l'ego ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, à un moment donné, va complètement dégénérer et va faire qu'on va complètement oublier l'objectif de départ ? Et là, il faut à la fois beaucoup de crainte du ciel et en même temps, il faut avoir autour de soi des bons conseilleurs. Korach n'a pas eu de bon conseiller. Sa femme n'a pas voulu le conseiller comme il faut. Par contre, On Ben Pelet va être sauvé parce qu'il a une femme très sage qui va lui conseiller de se retirer. Et je pense qu'une bonne chose qu'on peut dire aux gens qui cherchent à rentrer dans les machloquettes, c'est que faites bien vos calculs. L'histoire aujourd'hui, elle nous montre qu'on a suffisamment de recul aujourd'hui. Depuis Korach, on a plus de 3300 ans de recul, mais et même dans les machloquettes récentes qu'il y a pu y avoir dans certaines communautés ou autres, on a suffisamment de recul aujourd'hui. On voit bien ce que deviennent les enfants de ceux qui se livrent à des machloquettes, on voit bien ce que deviennent ceux qui se livrent à des machloquettes. C'est désastreux, c'est complètement désastreux, et c'est extrêmement dangereux. Donc, sachons, lorsqu'il y a des disputes, nous retirer de la dispute et prier pour que le shalom règne, et sachons... faire marche arrière. Je ne dis pas qu'on est obligé de tout accepter tout le temps. Évidemment, quand on n'est pas content de quelque chose, on peut dire, on peut parler, mais ça doit rester dans certaines limites et ça doit il a immanquablement quand même débouché sur des tentatives de shalom. Moshe Rabbeinu, il a été jusqu'à chercher Datan et Aviram, qui étaient, entre guillemets, les opposants permanents. Et ils ont se comporté avec lui très durement. Malgré tout, on voit que Moshe Rabbeinu nous enseigne que pour ne pas faire perdre le Mahloket, on doit tout faire donc, pour aller chercher donc, les gens avec lesquels on s'oppose. Donc, un jour ou l'autre, on le peut. On n'est pas forcément obligé d'attendre Yom Kippour pour ça. On peut, le plus rapidement possible, essayer d'apaiser les choses. Voilà, en tout cas, un enseignement qui est un enseignement fondamental de cette paracha, et je pense qu'il peut nous servir dans nos communautés, dans nos familles, à apaiser, je pense, certains conflits. À toutes et à tous, Shabbat Shalom, à Shabbat ou à Shalom.
Shabbat Shalom, Rav Mordechai. Vous savez, on dit que Korach, en fait, c'est l'inventeur de la politique. Parce que ce qu'il dit, ça se tient. C'est même, franchement, voilà, il pose des questions qu'on peut se poser, mais il adore la polémique. Rav Mordechai, je vous souhaite Shabbat Shalom. Et on se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée à vous.
Bracha ve'atzlacha.
Et nous sommes en ligne à présent avec Maya Chadré. Bonsoir Maya Cha.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Mevorar. Maya Cha, on vient de réfléchir énormément sur ce qu'est la Mahloket. On a entendu les uns nous dire c'est quoi Mahloket, l'Echem Shamaim, c'est quoi une discussion qu'on a le droit de faire, c'est quoi. On a entendu énormément de choses. Attention, les conséquences qui peuvent durer très longtemps. Mais vous, vous avez envie de poser une question qui est toute bête. Mais la paix existe sur Terre ou pas? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un objectif atteignable pour des hommes? Ou est-ce que c'est, je ne sais pas moi, c'est bien d'avoir des objectifs, mais bon, plutôt pour les anges, quoi, ou dans le ciel, un objectif à atteindre, un horizon. Mais ça existe concrètement d'arriver à la paix, Mariacha?
Voilà, c'est vraiment la grande question, hein, parce que vous avez raison, la dispute, elle est insupportable, elle gangrène, elle est contagieuse, elle est dévastatrice. Hein, la dispute est dévastatrice, que ce soit dans les couples, dans les familles ou dans les communautés. Enfin, vraiment, elle laisse des traces souvent très douloureuses, trop douloureuses, des fois irréparables. Et donc oui, quand on arrive à la paracha de Korach, je crois qu'il faut réfléchir à cette idée-là du shalom. Finalement, est-ce que l'homme est juste fait pour, à l'intérieur de lui, avec son ego démesuré, pour se disputer? Ou bien, y aurait-il une possibilité de shalom à l'intérieur de lui? Alors, pour essayer de comprendre ça, on va essayer d'aller à l'origine, c'est-à-dire à l'origine du mécanisme de la dispute. Finalement, quand quelqu'un se dispute dans le monde, que ce soit Korach ou nos enfants ou nous-mêmes, d'où tire-t-il son énergie, j'ai presque envie de dire dans le cosmos, pour se disputer? Et alors, c'est là que le Zohar est extrêmement intéressant et nous dit, eh bien, toute dispute dans le monde prend sa source dans le deuxième jour de la création du monde. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça a l'air étrange et opaque. En fait, il est en train de dire, ici le Zohar, que tous les jours de la création du monde, Dieu a mis une sorte de note à ce qu'il créait. Et cette note, cette évaluation s'appelle Tov. Qui Tov? C'est bien. Tous les jours, sauf un seul jour, le deuxième jour, comme par hasard le deuxième, d'où le principe même de la dualité ce jour-là. Ce deuxième jour, Dieu n'a pas réellement créé, il a plutôt séparé, il a créé une avdala, une différenciation, et tout était à queue. Et là, Dieu a mis de l'eau vers le haut, les eaux du haut, Shamaïm, qui signifie le ciel, mais qui signifie également Sham, là-bas, Maïm, de l'eau. Donc, les eaux du haut, les eaux du bas, et entre les deux, eh bien, un espace vide. Cet espace vide, ce jour-là, ne reçoit pas la note de Kitov. Et c'est le lendemain, le troisième jour de la création, où Dieu va doubler sa note, la deux fois Kitov, comme pour réparer le manque de la veille. C'est-à-dire que, si, explique Rav Moshe Shapira, Dieu a créé le monde pour aller vers une direction qui s'appelle Tov. L'objectif du monde, c'est le Tov. Et l'anti-Tov, c'est le deuxième jour. C'est la séparation, c'est la division, c'est l'espace vide. C'est le fait qu'il n'y a aucun point de jonction entre le haut et le bas. Alors, pour comprendre l'objectif, cet objectif du monde qui s'appelle Tov, eh bien, on peut comprendre qu'en réalité, quand Dieu crée le monde, il le crée de façon parcellée, c'est-à-dire qu'il crée des atomes, des molécules, des particules. Il crée l'eau, l'oxygène, la terre, et puis dans la surterre, il va créer d'infinis animaux et d'infinis équilibres entre les différents éléments du cosmos, pour que le cosmos entier fait de morceaux, fait de parcelles, puisse créer une unité quand les uns et les autres vont venir se compléter. Il va y avoir une complémentarité extraordinaire. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet papillon, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passe dans un bout du globe, eh bien, ça a un effet ailleurs, parce que finalement, il y a une grande unité, et c'est l'unité de Dieu, bien sûr, qui va réunir tous ces morceaux qui sont divisés. Mais en tant que tel, les morceaux sont divisés. Et c'est d'ailleurs le mot marloket, la division, vient du mot chélek. Chélek qui veut dire une partie. Alors que le mot shalom, la paix, vient du mot shalem, entier. Donc dans la vie, on peut être soit les uns et les autres en train de se compléter pour créer du shalom, shalem, quelque chose d'entier. Et on peut également rester à part, rester de son côté, ne pas aller en direction des autres parties de l'univers, pour rester morcelé, pour rester dans son en-soi. Eh bien, ce qui semble ici, c'est que le deuxième jour de la création du monde, eh bien, les eaux du bas ne sont pas utiles aux eaux du haut, et vice-versa. Et donc, il y a ici une séparation, une non-complémentarité qui va être réparée le lendemain, le troisième jour, quand il va y avoir la terre ferme, et que là, le cycle naturel des eaux va se mettre en place, les nuages qui font couler de la pluie, qui abreuvent la terre, qui... de nouveau, elle aussi va donner sa rosée et puis la mer va monter en vapeur, etc. etc. Nous connaissons tous le cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'il va y avoir finalement ce jour-là un point de jonction entre le haut et le bas. Le haut est utile au bas, le bas est utile au haut. Nous avons peut-être ici l'idée du shalom, l'idée de la plénitude, l'idée de la complémentarité que nous pouvons avoir. Et il est peut-être légitime, puisque nous sommes veille de Shabbat, de se poser la question, mais pourquoi nous souhaitons-nous Shabbat Shalom? Pourquoi on ne se souhaite pas Shabbat Tov, par exemple, comme quand on dit Shavua Tov, une bonne semaine, on pourrait dire un Shabbat Tov, un bon Shabbat. Et non, on dit Shabbat Shalom. Alors, il faut bien comprendre que finalement, le Shalom, en tant que tel, va venir de la part de Dieu. En fait, on dit qu'un des noms de Dieu, c'est le Shalom. C'est Shalom. Quand on salue quelqu'un, d'ailleurs, c'est la racine du mot « salut », c'est la racine du mot « salam » et du mot « shalom », c'est la paix. Alors, on n'a pas le droit, par exemple, dit la Gemara dans le traité Shabbat, on n'a pas le droit de dire le mot « shalom » dans une salle de bain, dans des toilettes, parce que c'est un des noms de Dieu. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est que le shalom ne peut venir que de Dieu. Ce que nous pouvons faire pour le shalom, c'est ne pas être une partie d'un tout indépendante, non liés à tout ce qui est autour de nous. Quand nous venons près de notre partenaire, de nos enfants, de nos collègues, et que nous disons « j'ai besoin de toi » ou « tu as besoin de moi et je suis là pour toi », eh bien nous sommes en train de proposer que nous sommes tous des parties d'un grand tout, mais le grand tout va venir de l'extérieur, va venir de Dieu qui est lui-même Shalom. Et quand je viens et je salue quelqu'un et que je lui dis « Shalom », eh bien ce que je lui dis, je lui dis peut-être qu'il te manque quelque chose et que je vais pouvoir peut-être moi, venir te le donner. Et si je suis là pour donner à l'autre ce qui lui manque, eh bien, inévitablement, il sera certainement là lui aussi pour me donner à moi ce qui me manque. Donc finalement, se poser comme étant un être manquant, un être peut-être fragile des fois, un être en tout cas, en tous les cas qui ne prend pas toute la place et tout l'espace, eh bien ça fait que nous immédiatement nous laissons de la place à ceux qui sont autour de nous et nous sommes capables de leur dire j'ai besoin de toi. Et donc si le shalom vient de Dieu dont le nom est shalom, en tout cas le mouvement vers le shalom vient de nous. Nous créons ce mouvement vers le shalom en étant dans une posture qui est juste, la posture de la personne qui a besoin de ceux qui sont autour de lui, non pas comme Korach qui se suffit à lui-même, qui remplit toute la place et qui dit à Moshe et à Aaron, Rav Lachem, c'en est trop, vous prenez trop de place et on n'a pas besoin de vous, pas du tout. Bien au contraire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ceux qui sont autour de moi. Et ceux qui sont autour de moi ont également besoin de moi, ce qui va créer une extraordinaire liaison de complémentarité, ce qui va créer le shalom. Et si nous nous souhaitons Shabbat shalom, eh bien c'est bien parce que le shalom, le Shabbat, va venir donner du sens aux 6 jours de la semaine qui ont précédé. Les 6 jours d'avant, nous avons œuvré, nous sommes peut-être éparpillés en petits morceaux, un morceau du lundi, du dimanche, du mercredi. Et le Shabbat, eh bien, tous ces morceaux de nous vont pouvoir constituer un tout qui est unifié et qui est le symbole du shalem et du shalom. Et donc, se souhaiter Shabbat shalom, c'est se souhaiter de se réunir à nouveau, soit à l'intérieur de soi, et soit avec ceux qui sont autour de nous. Et le Shabbat a cette force. Le Shabbat a cette force de venir apporter la complémentarité aux 6 jours de la semaine en donnant du sens à tout ce que l'on a fait pendant 6 jours, en étant là les uns pour les autres, et à nous de pouvoir bénéficier de ces étincelles de shalom qui sont là le Shabbat. Alors, il faut savoir que le Satan est aussi au rendez-vous.
Oh là là.
Bien souvent, les familles disent « oui, mais c'est censé être le jour du shalom et c'est le jour de la dispute ». Et oui, parce que là où il y a une force de shalom, le Satan se mêle. Et donc, il faut impérativement bien comprendre que l'enjeu du shalom, c'est l'enjeu du Shabbat. Et si le Satan se mêle, lui refermer la porte et lui dire qu'il aille voir ailleurs, qu'il aille embêter d'autres personnes à l'extérieur, mais qu'ici, dans ce foyer, nous voulons être capables de nous dire les uns des autres « j'ai besoin de toi ». Et quand on a besoin les uns des autres, eh bien le shalom va venir et va être au rendez-vous.
Je vous avais cité, parce que tout le monde fait comme ça, vous avez dit bon, les disputes entre deux amis, entre deux conjoints, et on pourrait ajouter évidemment, Dieu ne plaise, mais un homme et ses parents. Mais il y a aussi des fois une autre dimension qu'on oublie, et c'est celui d'un homme avec ses enfants. Parce qu'on considère, c'est mes enfants. Donc, je crois que c'est. Je parle sous votre contrôle, Maria. Je sais que vous êtes aussi thérapeute. Je crois qu'il faut faire très attention aussi que. Il faut penser aussi à ça par rapport aux enfants.
Mais bien sûr, parce que nous donnons à nos enfants, mais nous recevons de nos enfants. Nous recevons énormément. Nous nous construisons par nos enfants. Nous avons besoin d'eux comme ils ont besoin de nous. C'est ô combien vrai ce que vous dites. Il y a un chat nécessaire avec nos enfants.
Et un shalom avec les enfants. Et les mettre en valeur ce soir à table, quel que soit leur âge, même les adultes, même les enfants adultes. Maria Cha, merci.
Merci à vous, Bernard.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom, pleinement shalom.
Shalom loy boy na boy ma shem loy ishmari shav shokat shoy mai ma shem loy ne bayis Shalom loy boy na boy ma shem loy ishmari shav shokat shoy mai